On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. La semaine passée, la nuque longue de Jean-Luc Mélenchon a fait beaucoup parler d'elle. Comme tout Français privé de coiffeur depuis le 16 mars, on a bien compris qu'il jouait lui aussi le jeu de la quarantaine et n'était pas au-dessus des lois. Mais au-delà de cette courte analyse de communication politique, ces quelques centimètres de cheveux en plus disent bien quelque chose. La crise que nous vivons n'est pas seulement sanitaire, mais aussi capillaire, voire esthétique. Comment le Covid-19 a-t-il bouleversé le regard sur nous-mêmes ?
Nous n'allons pas voter ce qui nous est proposé. Non en raison de votre personne, monsieur le Premier ministre, ni même de l'idée que nous nous faisons de votre action. Nous sommes certains que vous faites pour le mieux. Mais nous ne partageons ni vos diagnostics, ni le système d'action que vous avez choisi.
Comme beaucoup, j'ai moi aussi été autant happé par les cheveux longs de Jean-Luc Mélenchon que par son discours. Certains l'ont comparé au tennisman André Agassi, version années 90, d'autres y ont vu la fatalité de la fermeture des coiffeurs, se passant eux-mêmes une main dans leur crinière laissée à l'abandon, mais le constat était là, l'insoumis arborait une coupe mulée. La coupe mulée est un sujet assez fascinant. Elle a ses chansons, ses détracteurs et ses fans, et son article Wikipédia. Et comme tout signe extérieur dépassé, les magazines se demandent régulièrement si en vertu du cycle de la mode, elle va redevenir un usage acceptable, voire désirable. Car le mulet, qui se porte courte devant sur le front et les tempes et long derrière, est le symbole capillaire de la ringardise. C'est la coupe des footballeurs des années 80, des rednecks américains ou des allemands qui portent des chaussettes dans leurs claquettes. Mais pas des personnes de bon goût. Voilà, arborer une telle coupe, volontairement ou non, c'est être suspecté de mauvais goût, d'indifférence ou pire d'infraction au code d'honneur capillaire. Ce n'est pas un acte neutre, au contraire, c'est un acte notable, sérieux en termes de représentation extérieure. Mais que faire quand c'est la situation qui impose le mulet et non l'inattention ou un choix émanant de soi ? On peut trouver ce problème dérisoire, mais c'est une vraie question et beaucoup plus large. Que faire quand ce que l'on montre de soi, cheveux ou habits, ne vient précisément plus de soi ?
Question de Sandra pour débuter. Quels sont vos conseils pour donner une petite fraîcheur à mes cheveux qui n'ont pas vu un seul coiffeur en deux mois ?
Franck Provost, quand on sait que nos cheveux poussent d'environ 1 cm par mois, on fait comment pour ressembler à quelque chose à la fin de ce confinement ?
Écoutez, moi pour l'instant, les salons sont fermés pratiquement depuis un mois et demi. Je pense qu'il faut encore patienter une quinzaine de jours et pas prendre de risques. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux, le meilleur conseil que je puisse vous donner.
Quand on suit l'actualité du Covid, le nombre de morts par jour, les soignants plus que sous tension, la détresse des personnes isolées, on ne peut que trouver que la question de l'apparence, des cheveux, des habits ou de l'épilation est une question dérisoire. C'est pourtant l'un des sujets les plus abordés sur les réseaux sociaux ou dans les discussions personnelles. Elle reste, c'est vrai, une simple préoccupation et pas une information de premier ordre. Mais d'ailleurs, pourquoi pas ? Pourquoi la question de l'apparence ne serait-elle pas décisive ? C'est une chose que je me suis souvent demandé. Pourquoi l'apparence devrait-elle toujours être mise de côté, condamnée pour sa duplicité ou sa superficialité, jugée pour l'importance excessive qu'on lui accorde alors qu'elle ne serait qu'une surface, que le jouet de notre ego surdimensionné ou au contraire de notre faiblesse de caractère influencée par les tendances ? Car de fait, cette crise, comme toute situation grave qui nous touche physiquement, n'est pas seulement psychologique, éthique, médicale ou politique, elle est aussi esthétique. Paradoxalement, on va rire de la nuque longue de Mélenchon, et on peut, on va se moquer de ces personnes qui veulent s'épiler ou dont le premier rendez-vous pris est chez le coiffeur, mais c'est aussi, et même d'abord en surface, à nos cheveux, à nos masques ou à nos gants que cette crise se voit.
Ce qui est important, c'est le message. Dire qu'on n'a pas honte de faire ce qu'on veut, qu'on est des individus qui articulons la rigueur et la déouane. La rigueur, c'est devant, la déouane, c'est derrière. Et porter le mulet, c'est une expérience. C'est agréable à porter quand il pleut, c'est agréable à porter au vent et c'est agréable à porter en cas de chaleur, tu vois. Et d'ailleurs, quand tu te lèves le matin et que tu portes une coupe mulet, le soleil se lève vraiment.
Masques, cheveux, gants, notre apparence n'est plus la nôtre, elle n'a plus les codes qu'on lui connaissait, elle est le reflet de la crise, elle est par là même en crise. On pourra toujours me dire que l'apparence que l'on croit sienne n'est pourtant jamais la nôtre, mais celle d'une époque, d'un héritage génétique, de ce que les autres projettent ou d'un statut social. Là est aussi le problème de cette crise à portée esthétique. Elle est visible, elle se voit et elle rend visible cet enjeu qu'on connaît tous et toutes. Comment faire sienne une apparence qui nous échappe ? qui n'est pas seulement le reflet même fabriqué, trafiqué, aliéné de soi, mais d'une situation. Comment travailler, transformer et incorporer ces nouvelles données, en jouer aux yeux des autres et en faire quelque chose de soi, là-dessus, il faut le dire, le Covid en a rajouté une sacrée couche.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.